Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. Édouard Rosset.
Bonjour, quel avenir pour la vie privée dans notre société, société dans laquelle bien sûr les médias occupent une place de plus en plus importante. C'est aussi à cette question que s'est intéressée l'Académie des sciences morales et politiques à travers un volumineux rapport dirigé par l'académicien Pierre Tabatoni, rapport intitulé « La protection de la vie privée dans la société d'information ». Alors entre télé-réalité, recherche de scoop pour les journalistes, journal d'actualité, paparazzi, nouveaux médias sur Internet, le rapport lance des pistes de réflexion et aujourd'hui, je vous propose d'en explorer quelques-unes en compagnie de notre invité qui a lui-même d'ailleurs participé à la naissance, à la rédaction de ce rapport. Francis Ball, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints à Canal Académie, professeur à l'Université Panthéon-Assas. Vous avez fondé et vous dirigez toujours l'Institut de recherche et d'études sur la communication et ce qui nous intéresse bien sûr particulièrement dans le cadre de notre émission. Vous êtes membre du groupe Société de l'information et vie privée dans le cadre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je rappellerai enfin que vous êtes l'auteur du célèbre Médias et société. Nous en sommes à la 11e édition, un ouvrage de référence que je ne présente plus, référence pour les acteurs du secteur et puis les étudiants. Enfin, vous venez de publier aux presses universitaires de France une version complétée de votre Que sais-je, justement intitulé Médias. Alors, Monsieur Ball, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de notre conversation aujourd'hui, peut-être une définition du mot média en ce début 21e siècle. Je serais tenté de dire l'ORTF est loin le transistor, le poste à galène, la télévision en noir et blanc. Le média aujourd'hui, l'acceptation est large. L'acception du mot est large.
L'acception est très très large. Vous avez raison de commencer par une définition parce que le mot n'a été francisé qu'il y a 20 ans, il y a 20 ans seulement. Il y a un quart de siècle, on parlait seulement aux États-Unis des mass médias pour désigner le cinéma et la télévision, et seulement le cinéma et la télévision. Le mot média, par conséquent, a été francisé quelques années plus tard, on dira au tournant des années 80. Et que désigne-t-il aujourd'hui ? Très précisément, c'est un outil, c'est une technique. Et en même temps, c'est la façon dont on se sert de cette technique pour communiquer quelque chose, pour transmettre quelque chose, pour dire quelque chose. Alors ces techniques, ce sont dans leur ordre d'apparition chronologique la presse, ensuite la presse imprimée, le cinéma, qui est apparu à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle la radio, puis au milieu du 20e siècle la télévision, et enfin Internet, on devrait parler du web parce qu'Internet c'est un réseau. Le web, lui, est véritablement un média parce qu'on sait à quoi il sert, on sait qu'il transmet des informations, on sait qu'il permet de véhiculer des contenus, qu'il s'agisse de morceaux de musique ou de films ou d'émissions de télévision. Par conséquent, on peut dire très simplement qu'il y a 5 médias qui aujourd'hui se partagent des tâches comme l'information, le divertissement, la communication, l'éducation et même la création artistique. Ces 5 médias, ce sont la presse, le cinéma, la radio, la télévision et Internet.
Ce sont des tâches, vous parlez de tâches, des tâches complémentaires qui interagissent en fait entre elles.
Ce sont des tâches différentes qui sont apparues peut-être au fil des décennies qui ont vu apparaître successivement ces différents médias. La presse, lorsqu'elle est devenue véritablement un média pour tous, c'est-à-dire ayant vocation à s'adresser à tout le monde, seulement au milieu du 19e siècle, lorsque les rotatives ont permis de faire des journaux en grande quantité et en peu de temps, la presse a véritablement inventé le journalisme moderne. Bien sûr, le journalisme remonte, on le fait remonter traditionnellement à Renaudot, mais Renaudot n'était guère qu'un attaché de presse ou une courroie de transmission, comme vous voudrez, à la solde évidemment des pouvoirs. Quand on dit que le journalisme est né au XIXe siècle, on parle du journalisme au sens moderne du terme, c'est-à-dire un journalisme indépendant,
d'investigation,
un journalisme qui n'est pas à la solde d'un pouvoir politique, qui n'est à la solde de personne, qui est censé par conséquent dire ce qui se passe, ce qui vient tout juste de se passer ou ce qui risque de se passer demain en faisant des enquêtes. Et par conséquent, le journaliste est mandaté par celui qui le lit ou celui qui le regarde ou celui qui l'écoute pour raconter les événements de l'histoire immédiate, de celle que nous vivons, du présent. C'est l'historien du présent. Or, cette information au sens moderne du terme, qui a été inventée, on peut le dire, par les journalistes dans les journaux, c'est pas par hasard si on est appelé ces hommes des journalistes. Le journaliste, c'est celui qui travaille dans un journal. Inventée au XIXe siècle, cette fonction, cette finalité, elle est née des seuls journaux. Ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, évidemment, l'information ne passe pas par d'autres médias, par la radio, par la télévision, subsidiairement par le cinéma et aussi, et de plus en plus, par Internet.
Professeur Francis Ball, l'exercice de la vie privée est une liberté des individus dans le cadre de normes établies par la société et où l'on retrouve d'ailleurs les termes défense du secret, non-ingérence, légitimité. Ces termes sont-ils compatibles avec la société moderne de communication dans laquelle nous vivons aujourd'hui ?
Lorsque l'information est née au sens moderne du terme au XIXe siècle, on a tout de suite pensé que son exercice par les journalistes, mais par tous ceux qui ont droit à la parole, tous ceux qui parlent, devaient être légitimement limités. Et qu'il ne s'agissait pas, par conséquent, sous couvert de liberté d'expression, au nom de la liberté de la presse, de porter atteinte à d'autres libertés fondamentales. Parmi ces libertés fondamentales, il y a le droit pour chacun au respect de sa vie privée. Et par conséquent, dans sa sagesse, le législateur de 1881, lorsqu'il a donné à la presse et à la liberté de la presse sa véritable charte, a tout de suite dit qu'il y avait des lignes à ne pas franchir. Parmi ces lignes, il y a évidemment la vie privée. Et à mesure, depuis 1881, on n'a pas cessé, par la voie législative, mais aussi par la jurisprudence, c'est-à-dire par les tribunaux, à veiller à ce que ce droit de chacun à sa vie privée soit de plus en plus respecté. Ce qui est vrai, c'est que la tentation des médias, notamment de la radio, mais surtout de la télévision, est de plus en plus de faire irruption dans ce qu'on considère comme étant la vie privée, parce que la vie privée, c'est une notion quand même éminemment subjective.
On peut dire qu'elle est menacée aujourd'hui par les médias.
Elle est toujours menacée, elle a toujours été menacée, elle a toujours été menacée par les journalistes qui essaient toujours d'en savoir plus parce qu'ils souhaitent répondre aux attentes de leurs lecteurs ou des téléspectateurs. Et il faut dire aussi que si elle est menacée, c'est aussi parce, non seulement parce que les lecteurs ou les téléspectateurs sont friands de choses qui ressortissent au domaine de la vie privée, c'est aussi parce que les gens ont envie de livrer les secrets de leur vie privée.
C'est du voyeurisme, non ?
S'il y a voyeurisme, c'est parce qu'il y a un exhibitionnisme. Il y a du voyeurisme de la part de ceux qui ont envie d'être regardés. Mais s'ils ont envie d'être regardés, c'est parce que d'un côté, ils ont peur de n'être peut-être vus par personne, de n'être considérés par personne. Donc, ils ont envie de s'exhiber. Mais s'ils ont envie de s'exhiber, c'est parce qu'il y a de l'autre côté, évidemment, des voyeurs.
Donc les torts sont partagés. Si aujourd'hui la vie privée est quelque peu menacée, il y a à la fois tort aux médias
et
tort aux...
Les torts sont toujours partagés, absolument. Pas du côté de l'émetteur comme du côté du récepteur. L'émetteur essaie d'aller le plus loin possible, sans enfreindre, évidemment, sans être en infraction avec les lois. Et celui qui est interrogé doit avoir le courage de dire « Écoutez, ça ressortit à ma vie privée, ça n'est pas intéressant dans le cadre de notre conversation. Si vous me posez des questions sur ma vie privée, je suis en droit de vous dire que ces questions sont sans intérêt pour ce qui nous réunit, mais je suis sûr que vous ne me poserez pas ce genre de questions.
Ah, » Je vais vous en poser
mais on
une.
Sait jamais.
Tiens, je vais vous en poser une. Peut-être va-t-on vers une conception... un concept amélioré de la vie privée, non? Peut-être que les Français eux-mêmes, enfin, ou les Européens, les Américains, ont eux-mêmes une conception différente du respect de la vie privée, du respect d'autrui.
Ce qui est vrai, c'est que devant les atteintes à la vie privée qui n'ont pas cessé de se multiplier, notamment avec le cinéma et avec la télévision, les juges, aussi bien que les législateurs, sont de plus en plus vigilants. Et par conséquent, ils savent que l'équilibre entre le respect de la vie privée et le droit à l'information, on a le droit de savoir certaines choses, mais on n'a pas le droit de tout savoir, que l'équilibre est toujours difficile à trouver et qu'il est toujours menacé pour cette simple raison que de la vie privée, on ne donne pas tous, évidemment, la même définition. On peut considérer que le statut, par exemple, d'une personne, est-ce qu'il est célibataire, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des enfants, est-ce que ça fait partie de la vie privée ? On peut le considérer. Est-ce que ses affiliations politiques, ses affiliations religieuses, est-ce que ça fait partie de ce qui doit être maintenu au secret ? C'est une question qui est à débattre, parce qu'il est des sociétés qui ne font pas mystère de ce que les gens gagnent, ne font pas mystère de leurs appartenances religieuses. Ça n'est pas le cas en France, c'est le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, on considère que ce n'est pas véritablement porter atteinte à la vie privée de quelqu'un que de lui demander à quelle religion, de quelle religion il se sent proche, s'il est le pratiquant de cette religion.
Oh, si ça se limite à ça, ça va.
Ou même ce qu'il gagne chaque mois. En France, ce sont des questions qui sont taboues. La question de l'argent est une question taboue. On ne sait pas très bien pourquoi, après tout. La question de l'appartenance religieuse est considérée également comme délicate, sinon taboue, parce que nous sommes une terre sur laquelle on sévit des guerres de religion et que par conséquent, le fait d'afficher une appartenance religieuse peut vous entraîner, peut vous exposer à des discriminations. À des discriminations qui ne sont pas toujours favorables, mais qui sont précisément défavorables. Le fait de dire « je suis juif, je suis catholique » peut entraîner de la part d'une certaine part de la population, et non une part négligeable, une attitude de discrimination négative. Par conséquent, les choses étant ce qu'elles sont, on peut considérer que si jamais vous me posiez cette question, je vous dise, ça ressortit à ma vie privée, je n'ai pas à vous répondre. Mais c'est une question qui se poserait très classiquement aux États-Unis, où on dit je suis démocrate, je suis républicain, je suis juif, je suis chrétien, sans aucune... derrière un micro. Moi, je sais que pour avoir vécu pendant un an et enseigné aux États-Unis pendant un an, j'étais tout de même assez étonné. J'allais souvent dans des radios, surtout que c'était en 1980, à l'époque où, par conséquent, j'étais interrogé surtout sur les élections qui se déroulaient en France. J'étais très étonné par les questions que le journaliste me posait. Et bien entendu, j'évitais d'avoir les réflexes très français qui consistaient à m'indigner et à dire « Mais écoutez, vous sortez de la réserve que vous devriez vous imposer. »
Quelle est la relation aujourd'hui, quelle relation font les médias justement avec cette conception de la vie privée ? Vous les observez de très près, ces médias, à travers notamment, je rappelais tout à l'heure, l'Institut de recherche et d'études sur la communication que vous avez fondé, que vous dirigez aujourd'hui. Nous en sommes en 2004 à la 11e édition de cette somme médias et sociétés. Donc vous êtes un observateur privilégié de ces médias.
Depuis plus de 20 ans, oui. Depuis plus de 20 ans, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé avec l'apparition notamment à la télévision d'émissions qui s'appelaient il y a 15 ans déjà les psychos, c'est-à-dire les émissions où des gens viennent concrètement raconter les problèmes psychologiques qu'ils croient avoir, dont ils se croient victimes, face à des psychologues ou à des prétendus psychologues, expliquant par conséquent de quelles difficultés ils souffrent. Le psychologue apportant ou les psychologues essayant d'apporter ou les psychanalystes essayant d'apporter des réponses à leurs difficultés estimant que c'est de l'intérêt de tous que de connaître, à travers des exemples, les difficultés que tout un chacun peut rencontrer et les solutions qui peuvent exister pour chacune de ces difficultés.
C'était alors, déjà la télé-réalité.
C'était les psychos du milieu des années 80. Ça a duré quelques années, ça a été très critiqué. Ça a été très critiqué parce que très concrètement, on vivait une époque où la psychologie était à la mode, où l'on considérait que tous les problèmes psychologiques avaient une solution et que les psychologues professionnels avaient toujours des solutions aux problèmes psychologiques que les gens rencontraient. On a vite découvert qu'évidemment, venaient derrière, devant la caméra, des gens qui, ayant peur de n'être regardés par personne, avaient envie tout d'un coup d'être vus par tout le monde et reconnus dans la rue le lendemain, prenant le risque de raconter même des histoires qu'ils n'avaient pas vécues pour se rendre intéressants, comme des enfants au fond. Par conséquent, on a exploité leur exhibitionnisme, il faut appeler les choses par leur nom, et on a incontestablement étalé ce qui jusque-là n'avait jamais été étalé, sinon peut-être dans les journaux, on a étalé à la télévision, sous couvert encore une fois de science, comme si la psychologie était une science ou que la psychanalyse était une science, des difficultés personnelles qui étaient de l'ordre du privé. Et par conséquent, c'est vrai que se donnant en spectacle, se donnant en exemple, montrant qu'après tout, tout le monde pouvait surmonter les difficultés psychologiques qu'il rencontrait, on a vulgarisé, on a popularisé l'idée selon laquelle il n'y avait pas de honte ou il n'y avait pas de gêne à avoir à raconter des choses qui normalement ne se racontaient pas il y a une ou a fortiori deux générations, qui restaient des secrets de famille en quelque sorte, ou ce petit tas de secrets, comme disait Malraux, que chacun doit garder avec soi et qui n'a aucun intérêt pour les autres. Alors, dans la brèche ouverte par ces psychos, sur d'ailleurs des chaînes publiques, on a vu apparaître ensuite d'autres émissions qu'on a appelées les émissions de réalité, la télé-réalité, qui n'a pas grand-chose à voir en réalité avec ces psychos, qui était simplement le spectacle d'adolescents qui vivaient entre eux et qui acceptaient la règle du jeu, c'est-à-dire d'être filmés, non pas 24 heures sur 24, mais 23 heures sur 24, puisque le CSA exigeait qu'ils aient une heure de paix pendant laquelle les caméras, par conséquent, n'étaient pas braquées sur eux. Bon.
Vous parlez de Star Academy, enfin de Love Story.
De Love Story. Story. Love Story. Oui. Story a été la première émission baptisée de télé-réalité. En réalité, c'était une émission qui ne pouvait pas apparaître avant parce que simplement, il y fallait des équipements particuliers, il y fallait des micro-caméras nombreuses, invisibles pour tous et qui pouvaient par conséquent capter les mouvements de tout un chacun à l'intérieur d'un appartement à tout instant. S'il n'y avait pas eu les micro-caméras, la miniaturisation concrètement de la captation du son et surtout de l'image, il n'y aurait jamais eu Loft Story. Mais Loft Story n'a pas grand-chose à voir avec Star Academy que vous évoquiez à l'instant. Star Academy, c'est un mélange de Radio Crochet et de Reine d'un jour. Radio Crochet a été inventé il y a 50 ans par ce qui s'appelait à l'époque Radio Luxembourg, c'est-à-dire l'ancêtre du RTL d'aujourd'hui. Et quant à la Reine d'un jour, c'était une émission à peu près du même style qui voyageait de ville en ville pour offrir à une jeune femme méritante, tout ce dont elle rêvait et tout ce qu'elle ne pouvait pas s'offrir et que soudain, pour faire leur propre publicité, leur réclame, comme on disait, les commerçants du coin lui offraient. Par conséquent, Star Academy, c'est un tout petit peu ça, puisqu'on permet à des jeunes d'accéder à une notoriété, moyennant évidemment l'apprentissage de ce qu'ils veulent apprendre, c'est-à-dire le chant.
Entre le psycho que vous citiez tout à l'heure, professeur Francis Ball, entre le psycho d'il y a une quinzaine d'années et le Loft Story avec la célèbre Loana, c'est quoi ? C'est un dérapage en matière de respect de la vie privée ? Ou est-ce finalement normal ?
Très honnêtement, il n'y a pas de quoi pousser des cris d'orfraie dans la seule mesure où, d'abord, l'émission a été quand même cadrée, non seulement par les producteurs, mais aussi par le CSA. Qui a dit que certaines choses n'étaient pas montrables. Bon, C'était un divertissement qui n'avait pas un grand intérêt intellectuel. Je préfère de loin Star Academy, pour vous dire la vérité, à Loft Story, mais Loft Story ne méritait pas. Après tout, c'était la première fois. Après tout, souvenons-nous quand même de la famille du raton, qui était une famille où le jeune adolescent n'était pas toujours très, très respectueux de ses parents, n'était pas toujours très obéissant. Et à l'époque, on trouvait que c'était donner un bien mauvais exemple aux adolescents que de raconter tous les jours sur les ondes de Radio Luxembourg, les histoires de cette famille où l'adolescent était vraiment insupportable. Alors, les adolescents de Loft Story sont déjà un tout petit peu plus âgés que dans la famille du raton, et ils étaient insupportables entre eux, mais enfin c'était une bande de joyeux lurons, et puis c'est tout, quoi. C'était une joyeuse colonie de vacances qui effectivement ne faisait pas tout à fait... ils avaient des comportements qui sont ceux de leur génération, qui pouvaient indigner des gens qui étaient d'une génération plus ancienne, incontestablement.
Francis Ball, nous marquons une première pause dans cette émission Éclairage. Je rappelle donc que vous publiez aux Presses universitaires de France le Que sais-je, intitulé Les médias. Vous êtes professeur à l'université Panthéon-Assas, fondateur et directeur aujourd'hui de l'Institut de recherche et d'études sur la communication, et puis membre du groupe Société de l'information et vie privée de l'Académie des sciences morales et politiques. Et nous parlons essentiellement aujourd'hui du rapport justement du développement de la société de l'information et du respect de la vie privée. Est-ce que tout cela est conciliable? Un outil de réflexion très précieux, c'est ce volumineux rapport publié également aux Presses universitaires de France, réalisé dans le cadre de l'Académie des sciences morales et politiques, La protection de la vie privée dans la société d'information, un rapport placé sous la direction de l'académicien Pierre Tabatoni. Nous poursuivons notre conversation après une très courte pause. Développement de la société d'information et respect de la vie privée sont-ils conciliables? C'est le sujet de cette émission Éclairage aujourd'hui. Nous parlons autour d'un rapport, la protection de la vie privée dans la société d'information, placé sous la direction de l'académicien Pierre Tabatoni, et invité d'Éclairage aujourd'hui, le professeur Francis Ball, professeur à l'université Panthéon-Assas, directeur de l'Institut de recherche et d'études sur la communication. Alors, Francis Ball, comment concilier rigueur de l'information et demande du spectateur, de l'auditeur, de l'internaute? Est-ce que réellement un journaliste peut être rigoureux face à la somme d'informations que lui demande aujourd'hui le public? Est-ce qu'il n'est pas tenté d'aller trop vite, d'aller trop loin?
Vaste question. Il faut savoir que l'information est un exercice, c'est une mission impossible. Le journalisme est vraiment une mission impossible pour la bonne et simple raison que le journaliste a pour vocation de s'adresser à un public large, par conséquent un public qu'il doit captiver à tout prix, qu'il doit conserver, dont il doit conserver l'écoute. Et en même temps, c'est un public qui est hétérogène, par conséquent, qui sur un sujet donné sont ou très avertis, ou bien n'y connaissent rien du tout. Par conséquent, la difficulté est très grande, car le journaliste parle d'un événement qui pour lui est un prétexte pour aborder un sujet donné, sujet où il lui sera toujours extrêmement difficile de ne pas être accusé par les uns d'être naïf et de ne pas en dire assez, et par les autres, d'être véritablement trop compliqué et d'en dire un peu trop. Parce que simplement, les uns sont très avertis et les autres ne le sont pas du tout. Par conséquent, c'est une mission extrêmement difficile, beaucoup plus difficile que la mission du pédagogue, la mission du professeur, parce que le professeur a un public devant lui qui est beaucoup plus homogène que le journaliste. Par conséquent, il peut plus facilement prendre par la main, si j'ose dire, ses étudiants ou ses élèves que le journaliste. De surcroît, le journaliste ne voit pas ceux auxquels il s'adresse, alors que le professeur, lui, il est censé tout de même les regarder et essayer de retenir leur attention et de la capter lorsque celle-ci faiblit. Par conséquent, lorsque vous me dites le journaliste se doit d'être rigoureux, certes, il ne doit jamais parler de ce qu'il ne connaît pas, il ne doit jamais en dire plus qu'il n'en sait, il doit toujours vérifier ce qu'il dit, ce qui sont des exigences classiques du pédagogue, mais il a une difficulté supplémentaire par rapport au pédagogue, c'est qu'encore une fois, il a devant lui, sans pouvoir les voir, sans pouvoir par conséquent mesurer leur réaction à tout instant, un public extraordinairement hétérogène. Or, il ne fait pas véritablement son métier s'il n'inscrit pas l'événement dont il vient de parler, un attentat à tel endroit, un suicide à un autre, un jeune cycliste qui meurt dans une clinique, s'il ne resitue pas bien entendu l'événement, l'actualité, dans son contexte. Il est obligé d'aller du particulier au général. Ce qui est extrêmement difficile.
Il y a deux conceptions en fait du journalisme. La conception, la version anglo-saxonne, les faits, rien que les faits, le commentaire séparé des faits, et la version plutôt latine, là qui, bon, on peut dire qu'elle mélange un petit peu tout, malheureusement.
Oui, si on veut caricaturer, c'est vrai que je l'ai écrit, par conséquent, je ne peux pas maintenant me désavouer moi-même. Vous me faites concurrence à moi-même. C'est vrai qu'il y a deux conceptions en gros, mais c'est un petit peu caricatural. Il y a d'un côté le reporter qui effectivement va sur le terrain et pour qui les faits sont sacrés et qui doit simplement parler des faits, réservant les interprétations à d'autres. Et puis il y a le chroniqueur qui lui, bien entendu, à partir de ces faits, se livre à des interprétations qui sont forcément subjectives, forcément moins objectives, forcément marqué par sa propre vision du monde, par sa propre vision des choses. C'est très difficile de faire le départ entre les deux, parce que concrètement, tout journaliste est à la fois vigilant à l'endroit des faits, et on est extrêmement exigeant dans le journalisme anglo-saxon, et on est aussi, on est obligé aussi d'interpréter un tout petit peu. Et ce qui fait la faiblesse du journalisme latino-européen, le nôtre, celui dans lequel nous vivons, c'est que le prestige va plus facilement au chroniqueur, celui qui fait un éditorial, celui qui livre sa propre interprétation des événements. Le prestige va beaucoup plus vers lui, chroniqueur, que vers le fantassin de l'information, c'est-à-dire celui qui, reporter sur le terrain, correspondant de guerre, etc., ne doit jamais dire plus qu'il en sait, mais pour lui, les faits sont parfaitement sacrés et il n'a pas le droit d'y mêler, enfin en tout cas il essaie d'y mêler le moins possible sa propre subjectivité, ce qui est évidemment difficile.
Alors au cœur de tout cela, professeur Francis Ball, il y a l'homme, c'est toute la problématique de l'individu. Alors sujet ou objet de la société de l'information, cet individu ?
Mais il y en a qui sont objets, il y en a d'autres qui sont sujets. C'est-à-dire que concrètement, en amont... il y a l'éducation qui doit précéder normalement l'information, puisque l'information ne vaut que pour celui qui a appris, si j'ose dire, à s'en servir. La même information pour celui qui a appris à s'en servir, qui a ce qu'on appelle en pédagogie les prérequis, cette information aura du sens, elle aura une signification. Pour celui qui ne sait pas dans quel contexte inscrire l'événement dont il est question, l'actualité dont on lui parle, cet événement n'aura aucun sens. Par conséquent, il est pour certains auditeurs, la même information fera des uns des sujets responsables qui comprendront ce qu'on leur dit, et pour les et, et pour les autres, véritablement des victimes qui sont incapables par conséquent de resituer cet événement dans son contexte et d'en comprendre, de lui donner un sens, de lui donner du sens, comme on dit.
La liberté de la presse est importante. Ce serait diminuer leur importance que de croire que les journaux ne servent qu'à garantir la liberté, ils maintiennent la civilisation. Ce que disait Tocqueville, et que vous citez d'ailleurs dans votre Que sais-je, ce que disait Tocqueville au XIXe siècle est encore vrai aujourd'hui ?
Oui, c'est plus vrai que jamais. C'est plus vrai que jamais. La meilleure preuve, c'est que le slogan « Pas de liberté sans liberté de la presse » connaît une certaine fortune.
Reporters sans frontières.
Voilà, c'est Reporters sans frontières. Et je trouve que c'est un superbe slogan parce que si on l'examine attentivement, ça veut dire que la liberté de la presse n'est pas à égalité avec les autres libertés. Ça veut dire que la liberté de la presse, c'est la condition d'existence et de possibilité des autres libertés. Pas de liberté sans liberté de la presse, c'est-à-dire que la liberté de la presse est chronologiquement première et elle est logiquement première. S'il n'y a pas la liberté de la presse, c'est pas la peine de compter sur les autres libertés. Les autres libertés ne peuvent pas exister puisque par définition, les gens ne peuvent pas s'exprimer librement, ne peuvent pas communiquer l'expression de leur pensée librement. Je ne peux ni émettre une pensée, ni la recevoir. Je suis véritablement réduit à l'état de sujet et pas de citoyen.
Permettez-moi de vous citer Francis Ball, donc dans Les Médias, votre Que sais-je publié aux Presses universitaires de France et qui vient d'être donc réédité dans une version complétée. Deux parties composent ce fascicule. Il y a tout d'abord la partie, je dirais, technique où vous rappelez pas mal de chiffres d'ailleurs concernant la radio, la télévision, le cinéma. C'est beaucoup d'informations très précieuses. Et puis une deuxième partie que vous avez appelée les objectifs ou les finalités. Et là, vous analysez un petit peu tout cela dans le fond. Je vous cite page 49. Les médias échappent toujours à leurs inventeurs. Au fil des années, à mesure qu'ils se répandent dans la société, ils se donnent des objectifs et on leur découvre des finalités que personne n'avait imaginées. En naissant, ils n'ont ni feuille de route, ni ordre de mission, et il n'est pas rare de surcroît qu'en franchissant le seuil du grand public, ils changent de direction. Et puis un petit peu plus loin, vous dites, au fil des années, un rôle à ces médias leur a été donné qui finit par s'imposer en même temps qu'une certaine façon de le remplir, organe d'information, instrument de relations publiques, moyen de divertissement ou bien support pour des œuvres capables de nous émouvoir. Alors c'est à la fois bien et puis source de méditation quand même, non ? Un média qui s'échappe à lui-même.
Oui, mais qu'une technique, lorsqu'elle apparaît, n'est pas à la naissance, pour me reprendre une feuille de route, c'est parfaitement normal. Qui savait à quoi allait servir Internet lorsqu'Internet a été popularisé au milieu des années 1990 ? Qui savait à quoi pourrait servir la radio lorsqu'elle est née dans les années 1910-1920 ? Qui pouvait imaginer que la télévision allait, avant 1960, jouer un tel rôle sur le terrain de l'information ? Avant 1960, la télévision existait déjà depuis 1945 aux États-Unis, depuis 50 ou 52 en France et en Europe, jusqu'en 1960, on s'imaginait que la télévision ne pouvait exceller que sur le terrain des variétés. On voyait dans la télévision la possibilité d'avoir du cinéma à domicile, mais sur plus petit écran et dans de moins bonnes conditions, puisque le son était quand même particulièrement défectueux à l'époque. Ce n'était pas encore la haute définition, ni la hi-fi d'aujourd'hui. Et en 1960, il s'est produit quelque chose de tout à fait inattendu, c'est l'élection de Kennedy à la présidence des États-Unis en novembre 1960. Personne ne connaissait, enfin personne, en tout cas il n'était pas donné gagnant quelques mois auparavant, en mai 1960, face à Nixon, qui lui était un vétéran de la politique, dont tout le monde était sûr qu'il allait remporter la présidentielle quelques mois plus tard. Il a suffi de 3 débats télévisés en duplex, c'est-à-dire que les 2 candidats n'étaient pas en face à face physiquement, mais ils étaient présents simultanément sur l'écran de télévision, pour que soudain, Kennedy soit connu du plus grand nombre et que concrètement, les téléspectateurs se tournent vers lui et votent pour lui. On a donc découvert d'un coup d'un seul que la télévision était un moyen d'information, un moyen aussi pour propager un certain nombre d'idées, pour faire connaître des hommes politiques qui jusque-là n'avaient à leur disposition que les préaux d'école, ou bien la radio, ou bien entendu la presse depuis plus d'un siècle. À partir de 1960, vous avez vu se multiplier dans toutes les télévisions du monde, non seulement les journaux télévisés, mais surtout des magazines d'information. 5 colonnes à la une en France, c'est-à-dire ce que représente aujourd'hui le 60 Minutes à la télévision américaine ou bien le envoyé spécial sur France Télévisions. Par conséquent, personne n'imaginait avant 1960 que la télévision pouvait faire effraction sur le terrain de l'information. Et tout le monde pensait que la presse avait ad vitam aeternam l'exclusivité de l'information. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que la presse, les journaux, font de plus en plus du divertissement, ils font de plus en plus de la communication, par conséquent, de la publicité. Ils font de tout, très exactement comme la radio, très exactement comme la télévision, très exactement comme Internet, en des proportions évidemment variables. On ne peut pas dire aujourd'hui que la presse est le monopole de l'information. On ne peut pas dire que la télévision est le monopole du divertissement. On ne peut pas dire que la radio soit la seule à véritablement parler de musique ou en tout cas de transmettre de la musique.
Mais l'ensemble forme d'ores et déjà le fameux quatrième pouvoir. Radio plus télé plus cinéma, quatrième
pouvoir.
Quand
on parlait du quatrième pouvoir, on désignait seulement les organes d'information, les grands médias d'information, presse et télévision, c'est vrai, qui étaient dominants, considérant qu'ils exerçaient une influence décisive et qu'ils soumettaient à leur loi les trois autres pouvoirs, c'est-à-dire, on devrait dire, les deux autres pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire n'étant là que pour veiller à ce que les lois soient véritablement respectées par tout un chacun. Par conséquent, quand la formule quatrième pouvoir a été utilisée pour la première fois par un philosophe anglais qui n'aimait pas la Révolution française, c'était déjà pour dénoncer la libre parole. C'était déjà pour dénoncer, par conséquent, la presse dont il pensait qu'en ayant conquis sa liberté, elle allait menacer les pouvoirs, les trois pouvoirs, principalement les deux pouvoirs auxquels Montesquieu avait songé. Donc, moi je n'aime pas l'expression quatrième pouvoir parce que il n'y a en vérité que deux pouvoirs, il y a le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, qui sont des pouvoirs de contrainte. Ce sont les deux seuls pouvoirs qui ont la capacité de contraindre les membres d'une même société. D'ailleurs, on parle de l'autorité judiciaire et non pas du pouvoir judiciaire, parce que l'autorité judiciaire est là pour veiller au respect par tous de la loi. Alors, je n'aime pas l'expression quatrième pouvoir pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la presse, en général, les organes d'information, les médias d'information, ne sont pas aussi puissants qu'on l'imagine.
Ah bon ?
Ils ne sont pas aussi puissants qu'on l'imagine, ils sont d'autant moins puissants qu'on les croit puissants. C'est à l'instant même où on les croit forts qu'en réalité ils sont faibles, et c'est à l'instant même où on les croit faibles qu'ils sont en réalité forts. Pour une raison très simple, c'est que si vous croyez que vous êtes manipulé par les médias, qu'ils ont la capacité de vous manipuler, vous allez vous méfier. Et vous allez leur opposer une espèce de contre-poison à ce que vous considérez comme étant du poison.
C'est la théorie du complot.
Vous allez vous immuniser contre eux. Si à l'inverse vous dites les médias manipulent tout le monde, mais pas moi, si vous vous croyez par conséquent non manipulable, c'est à ce moment-là qu'à votre insu, évidemment, les médias vont vous manipuler. Alors ça, c'est la première raison pour laquelle j'aime pas l'expression quatrième pouvoir, parce que c'est une capacité d'influence, ça fait circuler des idées, mais après tout, tout dépend de ce que les gens en font et tout dépend de leur capacité de résistance, tout dépend de leur esprit critique, tout dépend de leur crédulité. On n'est pas obligé de prendre pour parole d'évangile, si j'ose utiliser cette expression, tout ce que nous disent les médias. Et fort heureusement, les enquêtes montrent que les gens ne prennent pas pour argent comptant tout ce que les médias leur racontent.
Ils sont même très critiques.
C'est assez satisfaisant. La deuxième raison pour laquelle je n'aime pas l'expression, c'est que ce n'est pas un pouvoir à l'égal des deux ou des trois autres. C'est une capacité d'influence, mais ce n'est pas un pouvoir de contraindre. Personne ne vous oblige à regarder la télévision, personne ne vous oblige à lire et à acheter et à lire les journaux. Alors que tout le monde est soumis à la loi qui était dictée par le législateur. Tout le monde est obligé de respecter les décrets qui sont pris en application de ces lois. Et si on ne les respecte pas, on risque évidemment d'aller devant les tribunaux et éventuellement de se retrouver en prison. Par conséquent, là, c'est véritablement un pouvoir de contrainte qui est accepté parce que c'est notre contrat social, c'est le contrat de la société dans laquelle nous sommes. Il n'y a pas de société sans contrat et il n'y a pas non plus de société sans loi, donc sans interdit. Et la troisième raison pour laquelle je n'aime pas cette expression, c'est que ça donne à penser qu'après tout, il faudrait organiser le pouvoir des médias comme on a organisé, et c'est le but de notre Constitution, les pouvoirs de l'État, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Tout le monde sait qu'il y a une loi suprême, c'est la Constitution, qui organise le fonctionnement de ces différents pouvoirs et qui limite les uns par rapport aux autres ces différents pouvoirs. Eh bien, je regrette, mais dans une démocratie digne de ce nom, la parole doit être libre. La parole, évidemment, est forcément limitée par un certain nombre d'interdits qu'il ne faut pas franchir. Il ne faut pas franchir les barrières de la vie privée, il ne faut pas dire n'importe quoi, etc. Mais il ne s'agit pas d'organiser le pouvoir des journalistes, le pouvoir de la télévision, ou alors on fait des monopoles. On s'est suffisamment battu en France contre le monopole public pour, en faveur précisément de la concurrence, puisqu'après tout, la concurrence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le téléspectateur a le choix. La concurrence dans le domaine des journaux, ça veut dire que si je ne suis pas content d'un journal, eh bien c'est mon plébiscite quotidien, je passe à un autre journal. Et croyez-moi, la diminution du nombre de lecteurs est quelque chose qui impressionne toujours les rédactions en chef.
Canal Académie, la radio de l'Académie des sciences morales et politiques, reçoit aujourd'hui le professeur Francis Ball pour parler de la protection de la vie privée dans la société d'information en ce 21e siècle naissant. Nous marquons une nouvelle pause avant de nous retrouver pour poursuivre notre conversation. À tout de suite.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et
les médias, la protection de la vie privée dans la société d'information, c'est l'objet de notre émission aujourd'hui, le sujet d'éclairage. Nous en parlons avec le professeur Francis Ball, professeur à l'université Panthéon-Assas, directeur de l'Institut de recherche et d'études sur la communication et notamment membre du groupe Société de l'information et vie privée de l'Académie des sciences morales et politiques. Monsieur Francis Ball, donc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur Canal Académie. Alors, Internet, nous en parlions tout à l'heure, prend de plus en plus d'importance dans la défense, dans la diffusion de l'information et de la culture. Le caractère interactif de ce média, professeur Francis Ball, permet de mêler à la fois réalité et fiction, aventure personnelle. En fait, l'internaute devient en quelque sorte l'acteur de l'actualité, l'acteur de sa propre information. Est-ce que ce n'est pas un peu trop mélanger les rôles, ça ? Au risque justement de déborder, de franchir la ligne jaune.
Mais le lecteur d'un journal, il est aussi, lui, d'une certaine façon, un acteur. Puisqu'après tout, lorsque vous achetez un journal, vous faites le choix des rubriques que vous lisez plus attentivement. Et vous pouvez éventuellement écrire au journal et avoir la chance d'être publié dans le courrier des lecteurs. Par conséquent, l'interactivité n'est pas née avec Internet. L'interactivité, elle existe déjà depuis très longtemps, elle existe dans tous les médias, dans la mesure où nous ne sommes pas, vis-à-vis d'un journal, vis-à-vis d'une émission de radio ou d'une émission de télévision, aussi passifs qu'on nous le dit. comme si par conséquent nous étions condamnés à prendre pour argent comptant tout ce qui nous est dit et qu'à l'inverse, le pouvoir serait exorbitant du côté des émetteurs, du côté par conséquent des journalistes ou du côté des responsables d'émissions de radio ou de télévision. Alors, l'interactivité sur Internet, c'est quoi très concrètement? C'est la possibilité d'obtenir ce que l'on veut quand on le veut. C'est-à-dire de télécharger un programme d'information, un programme musical à l'heure que vous voulez, très exactement comme je peux lire mon journal quand je le veux et dans l'ordre que je veux. C'était seule la télévision, lorsqu'elle était rare, qui véritablement nous emprisonnait dans ses grilles. Je ne pouvais pas regarder un programme à une autre heure que celle à laquelle il était programmé. J'étais véritablement prisonnier de cette chaîne, prisonnier de ses grilles.
Oh ben le journal de 20h restera à 20h.
Écoutez, le journal de 20h reste à 20h parce que simplement les habitudes des gens n'ont pas changé et que chaque fois qu'on a essayé d'en mettre un à une autre heure, on était sûr que ce n'était pas un journal fédérateur, comme on dit, c'est-à-dire qu'on ne trouvait pas devant soi un public disponible aussi nombreux qu'à 20h. Mais le journal de 20h, il est à 18h aux États-Unis. Tout dépend des habitudes. Et il est à 21h en Espagne. Par conséquent, et il est probablement beaucoup plus tôt dans les pays scandinaves. Tout dépend des habitudes des gens. Les rendez-vous ne sont pas fixés à la même heure selon les pays et selon les habitudes des pays.
Donc Internet, un bon outil d'information.
Oui, c'est un bon outil d'information dans la mesure où je sais m'en servir, où grâce au moteur de recherche, je sais faire le tri parce que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile quand on a peu d'informations disponibles de s'y retrouver que quand on en a beaucoup. La difficulté pour Internet, c'est qu'on en a beaucoup. Et on en a beaucoup trop. Vous savez très bien que quand on essaie deux ou trois mots-clés par un moteur de recherche que je ne nommerai bien sûr pas, mais par l'un des moteurs de recherche les plus connus, on voit défiler un trop grand nombre d'articles. Par conséquent, la difficulté, c'est de ne pas être noyé dans l'océan. Et pour ne pas être noyé dans l'océan, il faut avoir soi-même évidemment quelques repères pour pouvoir immédiatement faire le tri. Plus vous êtes face à l'abondance, plus le risque est grand d'être noyé et plus la difficulté est grande de faire le choix pertinent.
Dominique Volton dénonce le risque de fractionnement social qui résulterait d'un excès de communication ciblée sur Internet, justement. Autrement dit, le risque de dégradation des moyens de protéger le secret de la vie privée est aujourd'hui considérable. C'est ce qu'il dit en clair. Vous partagez ce point de vue ?
Je ne vois pas très bien le lien entre le respect de la vie privée et la fragmentation. Parce que la fragmentation, elle existe forcément quand il y a abondance. Les journaux n'ont jamais été aussi abondants qu'aujourd'hui. Et à côté des journaux qui s'adressent à tout le monde, il y a de plus en plus de journaux qui ne s'adressent qu'à quelques-uns, centrés sur une catégorie d'âge ou centrés sur un sujet particulier. Par conséquent, ce qui est vrai, c'est que nous consommons de moins en moins, nous sommes de plus en plus différents dans les usages que nous faisons des médias, puisque nous avons le choix. Donc,
mais le risque n'est pas renforcé de dégradation, ce qu'il dit, hein, des moyens de protéger le secret de la vie privée.
Mais je ne vois pas en quoi le fait qu'il y ait beaucoup de médias, que par conséquent nous ayons à notre disposition des médias généralistes et des médias spécialisés, comporte.
Le panel étant plus large, peut-être que la porte est plus ouverte que.
Pour la vie privée. De toute façon, la législation est la même pour tous les médias, pour la radio, pour la télévision, pour Internet et pour la presse écrite. La législation est exactement la même et les tribunaux ont exactement la même vigilance lorsqu'il est porté atteinte à la vie privée. Lorsque
ce n'est pas plus difficile pour Internet.
Lorsque certaines manipulations ont pu être faites et que certaines personnes se sont retrouvées dénudées sur Estelle Hallyday, par exemple, s'est retrouvée dénudée sur un site web. Elle a pu se retourner vers les tribunaux et obtenir évidemment satisfaction, puisque de toute évidence, elle n'avait pas accepté de se trouver dans cette situation. Mais elle s'est retournée vers les responsables de l'édition de ce programme, comme elle se serait retournée vers n'importe quel magazine s'il avait fait la même chose. Donc, ce qui est important, c'est la législation et c'est surtout la façon dont les tribunaux veillent au respect de cette législation. Si les tribunaux sont laxistes, là, évidemment, la vie privée risque d'être une vie publique.
La législation actuelle pour le professeur Francis Ball, elle est suffisante?
Elle a été renforcée récemment puisqu'on ne parle plus seulement du respect de la vie privée, mais du respect de l'intimité de la vie privée. Ce qui veut dire que concrètement, l'intimité de la vie privée, il semble bien qu'il y ait des choses qui sont suffisamment intimes, qui font partie qui entrent à l'intérieur de ce périmètre qui est celui de l'intimité de chacun, ou véritablement un périmètre par conséquent qui trace véritablement un territoire quasiment sacré où il est interdit concrètement d'entrer. Par conséquent, la législation, que peut-elle faire d'autre que de dire que les infractions seront sévères lorsqu'il y aura atteinte à l'intimité de la vie privée? Alors, le seul problème, c'est qu'effectivement, les juges peuvent avoir sur ce que l'on appelle l'intimité de la vie privée des conceptions extrêmement variables selon les époques, selon les cultures dans lesquelles on se trouve, puisqu'encore une fois, ce sont des notions qui sont éminemment subjectives, auxquelles il est difficile de donner autre chose que des indicateurs à un moment donné pour les caractériser. Qu'est-ce que l'intimité de la vie privée? On parlait tout à l'heure de... Est-ce que ça fait partie de l'intimité de la vie privée que, par exemple, les appartenances religieuses? Est-ce que ça fait partie de la vie privée que les inclinations sexuelles? Est-ce que ça fait partie de la vie privée que de dire que l'on est de la troisième génération, fils d'anciens immigrants qui étaient italiens, qui étaient polonais, qui étaient juifs ou qui étaient... Tout dépend, tout dépend. Dans un pays qui est tolérant, dans un pays qui ne fait pas subir à une certaine partie de sa population des discriminations, pourquoi ne serait-ce pas véritablement public? Il n'y a pas si longtemps que l'on interdit, que l'on ne doit pas indiquer sur sa carte d'identité un certain nombre de choses, comme ou même lorsque vous êtes étudiant dans une université, la profession des parents. Il y a des universités qui considèrent que véritablement c'est attentatoire à la dignité de l'étudiant, que l'on n'a pas à connaître la profession des parents. Moi, je n'aurais jamais l'idée, dans une fiche que je demande quel est le cursus de mes étudiants, mais je n'aurais jamais l'idée de leur demander ce que font leurs parents.
Vous, mais pas d'autres peut-être. Donc là, il faut...
Ça appartient au domaine privé et qu'en tout cas, cela donnerait à penser qu'il puisse y avoir des discriminations selon que vous êtes, si j'ose dire, fils d'archevêque ou bien simplement fils d'ouvrier, ce qui est évidemment inacceptable dans un établissement public d'enseignement.
Que vous soyez puissant ou misérable. Alors un mot est à la mode, et à juste titre d'ailleurs, dans plein de secteurs, les télécommunications, le secteur financier, etc., c'est la régulation, l'auto-régulation, la régulation. Alors faut-il réguler à outrance justement Internet pour viser au respect vraiment...
Qu'est-ce que ça veut dire l'auto-régulation? Ça veut dire l'autodiscipline, responsabilité individuelle.
Entre les opérateurs...
Rien ne remplace la responsabilité individuelle. Vous pourrez faire dans le journalisme toutes les chartes que vous voudrez. Elles sont toujours extrêmement séduisantes et intéressantes. Elles se ressemblent toutes. Le seul problème, c'est de savoir comment elles sont respectées lorsque les journalistes sont face à leur responsabilité individuelle. Ça, c'est un exercice qui est véritablement qui est du ressort de la moralité individuelle et qui ne peut pas se contrôler par des tribunaux. Parce que les tribunaux peuvent éventuellement définir le périmètre à l'intérieur duquel le journaliste peut se mouvoir sans être inquiété par la justice. Mais à l'intérieur de ce périmètre, il peut avoir connaissance de certains faits et se dire qu'après tout, il n'est peut-être pas souhaitable que ces faits soient portés à la connaissance de tous, car ils risqueraient d'avoir des conséquences fâcheuses. Ça, c'est vraiment du domaine de la responsabilité individuelle. Il n'est pas pénalement sanctionnable, mais il est peut-être moralement sanctionnable C'est exactement la situation du médecin et de la vérité. Est-ce que le médecin doit à tout prix dire la vérité à ses malades? Tout le monde sait qu'il y a des malades auxquels il vaut mieux dire la vérité et qu'il en est d'autres auxquels il vaut mieux ne pas dire la vérité. Il ne faut jamais donner aux gens que la dose de vérité qu'ils sont capables de supporter. Il y a des malades auxquels il vaut mieux cacher qu'ils ont un cancer dangereux, et il en est d'autres, au contraire, auxquels il vaut mieux dire que, franchement, on peut se battre, que le résultat n'est pas certain, mais qu'en tout cas, ça vaut la peine de se battre parce que l'issue risque d'être quand même favorable si l'on y met... Si l'on remplit certaines conditions. Par conséquent, de même que le médecin sait que l'on ne peut pas inscrire dans la loi qu'il doit toujours dire la vérité à son malade, qu'il la dise à quelqu'un, bien entendu, de l'entourage, qu'il essaie quand même de le dire, mais il sait très bien qu'il ne peut pas tout dire à son malade. Et de même, je crois, le journaliste ne peut pas tout dire, on ne peut pas dire... S'il y a le suicide d'un adolescent, est-ce qu'il faut dire comment l'adolescent s'y est pris pour se suicider? Est-ce qu'il y a peut-être des moments où il vaut mieux peut-être ne pas le dire, ou en tout cas prendre certaines précautions pour le dire? Ce sont des choses qui ne peuvent pas s'inscrire dans une loi. Ce sont des choses qui ne peuvent pas s'inscrire dans des codes de déontologie. Et moi, les chartes de déontologie, pardonnez-moi, mais ça me fait un peu sourire. Parce que la responsabilité collective d'une profession, c'est souvent un alibi pour être irresponsable individuellement. Rien ne remplace la responsabilité individuelle. C'est seul le journaliste qui sait en son âme et conscience ce qu'il peut dire ou ce qu'il ne peut pas dire. Si, lorsqu'il tient une information de quelqu'un, il n'a pas à la vérifier, et lorsqu'il la tient de quelqu'un d'autre, il doit la vérifier plutôt 5 fois. Qui peut dire qu'il faut vérifier 3 fois, 5 fois ou 1 fois? Il y a des gens auxquels vous avez confiance et peut-être que ça vaut pas la peine d'aller vérifier une deuxième fois.
Finalement, si je vous comprends bien, nous arrivons au terme de cette émission. Francis Ball, ça sera la conclusion. Tout cela est aussi et peut-être surtout question d'éducation. À la base, non ?
Oui.
De tous les opérateurs, oui, que ce soit les journalistes, les opérateurs internet.
Je crois, parce qu'au sens large du terme, vous avez 1001 fois raison. Parce que inculquer l'esprit critique à ceux qui écoutent les gens à la radio, c'est très bien. C'est très bien parce que ça leur permet de dialoguer en quelque sorte avec ce qu'on leur dit et de réfléchir à partir de ce qui leur est dit et de donner du sens à ce qui leur est dit. Et en même temps, l'éducation, c'est aussi une certaine éthique, une certaine morale, c'est-à-dire l'exercice d'une certaine responsabilité individuelle quand on a le privilège de pouvoir parler dans le poste, comme on disait quand j'étais jeune.
Merci infiniment Francis Ball d'être venu nous donner ce point de vue très très enrichissant sur Canal Academy. Je rappelle que vous enseignez à l'université Panthéon-Assas, que vous dirigez l'Institut de recherche et d'études sur la communication. Vous êtes l'auteur de la Somme Médias et Sociétés qui en est à sa 11e édition. Et je renverrai vraiment volontiers nos auditrices et auditeurs à la lecture de ce Que sais-je qui vient de paraître aux Presses universitaires de France, une version considérablement, je ne vais pas dire améliorée, mais complétée, les médias évidemment au pluriel, avec toutes les larges acceptions dont nous avons parlé au cours de cette émission. Et puis je renvoie également pour la réflexion à la lecture du rapport publié par l'Académie des sciences morales et politiques, La protection de la vie privée dans la société d'information, un rapport qui a été placé sous la direction, qui a été dirigé par l'académicien Pierre Tabatoni. Professeur Francis Ball, merci, à très
merci
bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Vous écoutez Canal Academy.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de l'histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles, historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Radio-Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent, retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Radio-Canal Académie.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.